12h. Le journal de midi. Christelle Yesso.
Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à cette édition. Au sommaire, élection présidentielle de 2025. Le PDCI RDA dévoile son dispositif électoral et met en place une task force dans le district des Lagunes. Et le ministère de la Santé présente son plan de communication communautaire 2022-2025 à découvrir en cours d'édition. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa dévoile un gouvernement d'union nationale au format inédit. Et dans ce journal, un dossier d'actualité est consacré à Teini, dans la région du Bounkani, où les habitants s'inquiètent de la forte présence de bovins qui menacent les activités agricoles de la région. Et pour terminer, en invité de la rédaction, Dr Christophe Kwame, le coordinateur du collectif Les Libertés, un regroupement d'acteurs de la société civile œuvrant pour la défense des droits de l'homme, revient sur les motivations de la saisine du Conseil constitutionnel. Un entretien dirigé par Soro Adams à suivre en toute fin d'édition. Vie des partis politiques, c'est à Dabou que le président du PDCI RDA a présenté vendredi sa machine électorale pour la présidentielle de 2025 et les élections qui vont s'en suivre. Avant le séminaire, Tidiane Thiam a appelé les militants à prendre part à toutes les étapes du processus électoral à venir pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Écoutons donc à cet effet le président Tidiane Thiam.
L'année prochaine, nous allons avoir des élections en Côte d'Ivoire. Depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu président du parti, j'ai dit et répété que nous allons en toutes circonstances nous montrer des dignes fils de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ne jamais recourir à l'invective, ne jamais recourir à la menace, ne jamais recourir à l'injure, mais au contraire, donner l'exemple de la maîtrise de soi. Comme j'ai dit souvent, on ne peut pas dans la vie contrôler les événements. En revanche, on peut toujours contrôler comment on réagit aux événements. Et ça, c'est le message du PDCI. Nous sommes le parti de la paix, le parti du travail. Et en fait, nous sommes ici pour travailler parce que le véritable enjeu de cette élection, c'est la participation. Il faut que les Ivoiriennes, les Ivoiriens en âge de voter, votent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, d'Ivoiriennes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, en général parce qu'ils n'ont pas de papier. L'autre chose que nous allons faire ici, c'est ce que nous appelons le maillage. Ça veut dire qu'il faut être sur le terrain au moment des élections. Il y a un peu plus de 23 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Et notre ambition au niveau du PDCI, c'est que chacun de ces bureaux de vote soit couvert par des militants du PDCI. Nous ne souhaitons qu'une seule voie pour accéder au pouvoir. C'est la voie des urnes, la voie de la démocratie. Donc il faut qu'on gagne ces élections dans les urnes. On ne pourra gagner ces élections dans les urnes que si nous sommes mobilisés et organisés.
À l'instant, Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Et en parallèle donc à cette rencontre, Tidiane Thiam a également procédé au lancement, toujours à Dabou, du maillage et de la mise en mission d'une task force dans le district des Lagunes. Objectif, fédérer l'ensemble des actions électorales au sein du parti. Sur la mission de la task force et la mise en œuvre du maillage, écoutons les explications du vice-président et coordonnateur général du parti, Noël Akosimbenjo, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa.
Le président du parti a créé une task force, c'est-à-dire un groupe de travail, pour coordonner l'ensemble des activités et l'ensemble des opérations électorales menées au sein de notre parti. Vous savez qu'il y a plusieurs structures qui gèrent les élections. C'est pour cela que le président a décidé de mettre en place une organisation centrale qui permet de coordonner l'ensemble de ces activités. La task force est composée de deux structures, c'est-à-dire que c'est une fusée à deux étages. Le premier étage, c'est le comité de pilotage. Le comité de pilotage définit et suit les stratégies et les grandes orientations du PDCI-RDA en matière électorale. Le président a mis en place le deuxième palier de la fusée, qui est le comité de suivi. Parmi les principales missions confiées à la task force figure le maillage. Le maillage est mis en place pour assurer un alignement entre l'organisation du parti et l'organisation électorale. Il faut reconcentrer les énergies de notre personnel politique sur les élections, surtout que nous n'avons que 15 mois.
Noël Akossi Benjo, vice-président et coordonnateur général du PDCI RDA. Autre sujet à présent, la problématique du harcèlement et des violences sur le lieu de travail a été abordée lors d'un atelier organisé le 26 et 27 juin par l'Organisation internationale du travail, OIT, et cinq centrales syndicales ivoiriennes. Les discussions ont porté sur la ratification de la Convention 190 de l'OIT, traitant donc de cette question. On en sait plus avec Junior Cardin.
L'atelier a tourné autour de l'élaboration des stratégies syndicales en vue de la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement au travail. C'est quoi cette convention ? Naounou Guéni, coordonnateur du projet Trade for Decent Work à l'OIT.
Le monde du travail est un monde qui met en collaboration travailleurs et employeurs qui sont dans un rapport hiérarchique. Et il va sans dire que ce rapport hiérarchique-là peut être facteur de harcèlement, de violence. Donc la Convention de l'OIT, la Convention sur la violence et le harcèlement, vient adresser ces questions-là en vue de lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
Adoptée en 2019 par l'OIT, cette convention a été ratifiée à ce jour par 44 pays. Au dire de Kwame Kra-Félix, secrétaire général fédéral de la FESACI, porte-parole des centrales syndicales.
Mais nous, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas encore ratifié cette convention. Et aujourd'hui, nous sommes ici en séminaire à l'initiative du BIT et des cinq organisations syndicales de la Côte d'Ivoire pour rencontrer les autorités, notamment le gouvernement, afin de faire ratifier cette convention pour qu'elle devienne obligatoire à l'ensemble des citoyens du pays.
Les centrales syndicales sont donc attendues à ce niveau.
Ce que nous pouvons apporter, c'est d'abord de faire la sensibilisation auprès des différents groupes et acteurs en Côte d'Ivoire, auprès des autorités, auprès des communes et dans les milieux où la question est sensible, comme dans le milieu d'éducation-formation, dans le milieu de force de l'ordre, pour qu'il n'y ait plus de harcèlement sexuel et de violence en milieu de travail.
Les centrales syndicales sont sorties de cet atelier très enthousiastes et très motivées pour encourager l'État de Côte d'Ivoire à aller à la ratification de cette convention.
Le contenu du plan de communication du plan stratégique national de la santé communautaire 2022-2025 a été officiellement présenté jeudi dernier au cours d'une cérémonie. Ce plan permettra de répondre aux besoins de la population afin d'améliorer le système de santé dans le pays. On en fait le point avec Paul-Bénédicte Boulou.
Le programme accélérateur de renforcement des systèmes de santé de la DSCPS a été financé par l'USAID et la Fondation Bill et Belinda Gates. Docteur Goulin Kadja Adjoa Françoise, directrice de la santé communautaire et de la promotion de la santé.
Votre contribution et votre soutien essentiel pour transformer ce plan en action concrète et améliorer la santé de nos concitoyens. Pour renforcer les interventions communautaires en matière de santé, à mettre en œuvre les axes stratégiques définis par le gouvernement en renforçant le cadre institutionnel et organisationnel de la santé communautaire.
Resolve for Development a apporté son appui technique pour l'élaboration de ce plan. Docteur Linda Vanotou, sa directrice programme.
The R4D is interested in health, education and nutrition. And we believe that
R4D travaille dans le domaine de l'éducation, à la santé et la nutrition. On travaille avec les partenaires locaux parce qu'on croit beaucoup au projet de renforcement de santé avec les agents locaux permettent de développer les systèmes de santé dans les pays et les rendre plus efficaces.
La santé communautaire embrasse toutes les actions et initiatives visant à promouvoir la santé et le bien-être des populations. Professeur Soro Kuntelegona, conseiller technique adjoint du ministre de la Santé.
Le plan de communication est le fruit d'une réflexion approfondie et d'une analyse minutieuse des besoins et des attentes de la population. Un levier puissant pour renforcer notre système de santé communautaire et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Ce plan est estimé à plus de 1,3 milliard de nos francs.
Éducation nationale. L'État ivoirien doit aux établissements privés de l'enseignement général, technique et professionnel, aujourd'hui la somme de 72 milliards de francs CFA. Cette information a été donnée par le président de la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, Féné Plassy. Il était face à la presse vendredi à l'occasion d'une rencontre organisée par la Conférence des associations de fondateurs d'écoles privées laïques de Côte d'Ivoire. Nous vous proposons donc d'écouter à cet effet Ibrahim Karamoko.
L'année scolaire 2023-2024, dans notre convention, nous devons être déjà au deuxième tiers. des paiements, puisque le premier tiers devait se faire depuis le 30 mars, le deuxième tiers le 30 juin pour permettre à nos personnels d'aller en vacances, et puis le troisième tiers le 30 septembre. Mais l'année scolaire 2023-2024, nous l'avons fini, il n'y a aucun document financier, il n'y a aucune reconnaissance de l'État quant au travail que nous avons fourni. Enseignement technique, formation professionnelle et éducation nationale. Dans notre secteur, il y a 70 000 travailleurs et ces personnes doivent pouvoir donc vivre aussi de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous devons demander le paiement de plus de 200 milliards, puisqu'il y a 72 milliards de 2022-2023 et il y a 130 milliards de 2023-2024 exigibles aujourd'hui. Et il y a l'année dernière, et ça je ne parle même pas des passifs des années antérieures, puisque les passifs sont de 25 milliards à peu près. C'est vrai qu'il y a eu quelques 30% qui ne représentent rien du tout, ça il faut le dire. C'est pour cela que nos enseignants, nos établissements qui représentent 65% des apprenants, 77% des infrastructures sont en souffrance. Et si nous, nous sommes en souffrance, c'est l'école ivoirienne qui est en souffrance. Et toutes les autorités sont informées, notre tutelle est informée, la primature est informé et jusque-là, rien n'est fait.
Vous écoutiez Ibrahim Karamoko, président de la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, Fénéplacy. Hors de chez nous, plus de 10 jours après l'inauguration de Cyril Ramaphosa pour un second mandat, le chef de l'État a dévoilé un gouvernement d'union nationale extrêmement élargi. Il figure 75 ministres et ministres adjoints, 9 partis différents sont représentés. C'est un format inédit pour la démocratie sud-africaine, alors que le Congrès national africain a dominé le paysage électoral depuis 30 ans. Sa perte de la majorité absolue lors du dernier scrutin l'oblige à trouver des partenaires. Et en sport, championnat ivoirien, les Verts et Rouges remportent le titre de champion de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire après leur victoire 2-1 face à Osa FC d'Abobo ce dimanche au stade Robert Champrou de Marcory. Les deux buts des Aiglons ont été inscrits successivement par Sidibé Sori à la 42e minute et Abrogwa Louis à la 49e minute. Quant à l'équipe de Osa, son unique but est intervenu à la 75e minute de jeu par Soro Inza. Suivons la réaction de Kuyo Théa Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan, après le coup de sifflet final.
Aujourd'hui, je vis en réalité un vrai bonheur. C'est toujours plaisant d'arriver à ce niveau. L'Africa a connu plusieurs années de galère. Nous nous sommes battus et avec de nombreuses personnes qui sont venues nous rejoindre. Aujourd'hui, nous retrouvons l'élite. Je crois que c'est la place normale de l'Africa Sport. Je suis heureux d'y arriver. C'est pour ça que je profite de votre micro pour dire merci à tous ceux, à toutes celles qui nous ont aidés à arriver à ce niveau-là. En tout cas, merci à tout le monde. J'ai vu la mobilisation importante de toutes les personnes concernées par l'Africa Sport et j'ai beaucoup apprécié. L'année prochaine, il va falloir s'adapter pour participer comme il faut à la division 1. Je pense que c'est une division que nous connaissons déjà. On va essayer de nous réadapter.
C'était le président de l'Africa Sport d'Abidjan, Kuyo Théa Narcisse. Euro 2024, le championnat se poursuit. Hier, l'Angleterre a remporté la victoire sur la Slovaquie par 2-1. Également l'Espagne qui sort vainqueur de son match contre la Géorgie par un score de 4-1. Pour ce lundi, nous aurons au programme la rencontre France-Belgique à 16h, suivie du match Portugal-Slovénie à 19h, temps universel. Nous abordons à présent le dossier d'actualité. À Téini, dans la région du Bounkani, les agriculteurs se disent très contrariés par des réfugiés venus du Burkina Faso qui occupent les champs avec leur bétail au moment même où les cultures sont en train d'être mises en terre. La situation actuelle dans le département est marquée par des tensions entre les éleveurs, demandeurs d'asile et les agriculteurs. Notre correspondant dans le Bounkani, Jérôme Kwasi de Bouna, présente dans ce dossier des pistes de solutions envisageables pour tenter d'apaiser ces tensions.
Dans le département de Téini, le nombre de têtes de bœufs dépasse aujourd'hui l'effectif de la population locale, nous révèle Palais Sansan Raymond, conseiller municipal.
Les bœufs ont envahi. Il y a plus de bœufs que de population ici dans le département de Téini.
Il faut parquer ces animaux en cette période de mise en place des cultures, suggère le président de la communauté burkinabé de Téini, Sawadogo Suleiman.
Et de trouver un espace de pâturage pour pouvoir envoyer ces bœufs là-bas, pour laisser nos parents aussi faire les champs, puisque la pluie a commencé à tomber, les gens ont commencé à s'aimer.
Sinon, on ne pourra pas éviter les conflits avec la transhumance itinérante des bœufs et les sécurités régnantes, s'inquiète le conseiller municipal Palais Sansan Raymond.
Aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans qu'il n'y ait de conflit agriculteurs-éleveurs. Et aussi, la sécurité. Nous ne savons pas ce qu'ils ont avec eux. Ils ne sont pas avec nous, ils sont en brousse dans les villages et ça inquiète.
C'est dans ce contexte de tension latente qu'est arrivé à Téhéni le nouveau médiateur délégué de la République pour expliquer son rôle dans la gestion des conflits. Daouda Ouattara.
Si vous avez des problèmes, il y a des problèmes entre Lobi et Koulango, entre Koulango et Djoula par exemple, quel que soit le conflit communautaire, ça c'est également de la compétence du médiateur.
Il est temps qu'intervienne aussi le médiateur, c'est Réjus Ouattara Alassane.
Suite à ce qu'on vient d'entendre développer le médiateur, on lui dit merci d'être venu avec nous ici. Nous pensons qu'il était vraiment temps qu'il soit avec nous parce que les problèmes sont tellement étonnants qu'il faut trouver une solution le plus rapidement possible.
En entendant d'autres actions de l'État, le préfet avec les sous-préfets sillonne les grandes agglomérations des sous-préfectures de Gogo et de Toubo pour expliquer la situation aux réfugiés. Nyanyoro Koudou Ignace, préfet de Téhéni.
De ne pas rester en brousse, de rester à un endroit où on peut leur apporter l'assistance. Ils se conforment à vos règles, je vais leur dire.
Et préconise la création d'un parc à bétail pour le suivi des animaux et qui va être aussi une source de revenus pour la cité.
Et depuis longtemps, je ne me bats. Pourquoi ici on a un parc? On sait qui met ces animaux-là et on sait quand il va les prendre pour aller les faire paître. Pour que les gens quittent ailleurs venir acheter les animaux ici.
Surtout, il invite la population à la retenue.
Mais ne vous faites pas justice. Ne chassez personne. N'allez pas en combat contre les populations. Ne dites pas que non, telle personne, c'est un peu. Telle personne, c'est un doula. Donc, on doit le chasser. Ne faites pas ça. Nous sommes en train de réfléchir à cela pour qu'il n'y ait pas de grabuge ici.
Selon les données statistiques de l'UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le département des Téhéni comptait en avril 2024 4 909 demandeurs d'asile biométriquement enregistrés. Jérôme Kwasi Kru, Bouna, Radio de la Paix.
Voilà, c'était donc le dossier d'actualité avec notre correspondant Jérôme Kwasi sur les tensions entre les éleveurs, demandeurs d'asile et les agriculteurs à Téhéni. Nous abordons à présent l'invité de la rédaction. Ce jour, nous recevons le coordinateur du collectif Les Libertés, un regroupement d'acteurs de la société civile œuvrant pour la défense des droits de l'homme. Docteur Christophe Kwame revient donc sur les motivations de la saisine du Conseil constitutionnel et se prononce sur certaines dispositions du code pénal ivoirien. Il répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour docteur Christophe Kwame.
Bonjour.
Le collectif des organisations de la société civile pour les libertés vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. C'est quoi exactement ce collectif? Et ce collectif créé pour quoi? Et pour quoi faire?
Ce collectif est né pour juguler le recul des libertés fondamentales en Côte d'Ivoire. Le collectif des libertés a été jugé utile d'être créé par plusieurs organisations de la société civile pour répondre, selon nous, à un recul des libertés fondamentales en Côte d'Ivoire relativement aux libertés que la Constitution ivoirienne nous donne.
À savoir
les libertés de réunion, les libertés d'opinion et toutes les autres libertés liées aux individus contenues dans la Constitution ivoirienne. Nous constatons que certaines lois, dont le Code pénal, restreignent une partie de ces libertés déjà obtenues dans notre Constitution. Voilà comment est né le collectif des organisations de la société civile pour les libertés.
Les libertés en recul dans votre pays, la Côte d'Ivoire, vous dites?
Affirmatif.
Vous avez saisi le Conseil constitutionnel en rapport avec le code pénal de votre pays?
Nous pensons que certaines lois ont violé nos droits et restreignent nos libertés. Nous avons déféré ces lois en face du juge constitutionnel qui seul est habilité à regarder la Constitution d'une part, à regarder ses lois d'autre part, et les articles incriminés, et nous donner son point de vue juridique, si nous avons raison ou si nous avons tort.
C'est à raison, surtout, de l'article 185 nouveau du Code pénal de votre pays?
En effet, l'article 185 est venu ajouté aux autres articles 196 à 199 la léthargie qui sommeillait dans cette loi. Les autres articles avaient déjà réduit une partie des libertés, mais l'article 185 vient carrément nous interdire même de dire des choses ou de soutenir un tiers qui serait déjà dans les bras de la justice. Donc nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire ayant prévu ces recours nous donne le droit que le juge nous explique à tous et le juge va nous départager pour savoir qui a raison et qui a tort. C'est mieux que de se battre, de s'insulter, d'envoyer des invectives dans un camp comme dans l'autre.
Mais que reprochez-vous à ces articles précisément?
La Constitution dit à son article 20 dans son préambule que toute personne en Côte d'Ivoire a le droit de s'exprimer, dire ce qu'il a envie de dire dans les limites de la loi. Par exemple, il y a eu l'inondation. Nous, on peut se lever en tant que ONG, en tant que citoyen, pour marcher vers le ministère de l'Urbanisme, pour dire on n'est pas content que le gouvernement laisse les quartiers s'inonder. Ça, c'est ce que la Constitution nous permet. Mais les lois et les articles incriminés disent d'autre part qu'on n'a pas ce droit spontané de marcher en Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire
que si un citoyen ou un groupe de citoyens veulent faire des marches, on est obligé d'aller demander une permission, comme si on n'était pas citoyen de tout droit. Voilà simplement ces éléments-là que nous voulons que le juge constitutionnel clarifie.
Alors, docteur Christophe Kouamé, qu'attendez-vous exactement du juge?
Le juge constitutionnel a été mis en place pour départager une crise possible entre le système social de notre pays, qui est composé de la société civile d'une part, de la société politique d'autre part. Face à ces incompréhensions, vous avez vu plein d'écritures, vous avez vu plein d'émissions. Alors que cette disposition de faire déférer ces articles devant le juge permet au juge de donner lieu à une interprétation juridique, l'esprit et le fond de la loi, et essayer de nous mettre d'accord. Donc le juge est l'arbitre en dernier recours sur ce que nous prétendons être la vérité et ce que les législateurs du pays pensent être la vérité. Donc nos prétentions sont mises devant le juge et nous attendons à ce que le juge nous dise que nous avons le droit de marcher, nous avons le droit de nous exprimer, nous avons le droit d'exprimer nos opinions comme le nous garantit la Constitution et nous n'avons pas d'obligation de demander une permission spécifique qu'on nous autorise à marcher dans notre pays. Voilà ce que nous attendons que le juge dise clairement à l'opinion nationale et internationale.
Et vous êtes confiant de la suite que le Conseil constitutionnel va donner à votre plainte?
Nous sommes confiants au vu des articles que le Conseil va nous donner une suite favorable à notre requête.
Je vous remercie, Dr. Christophe Kouamé.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
C'était l'invité de la rédaction avec Dr. Christophe Kouamé, coordinateur du collectif Les Libertés. Et voilà donc qui met fin à cette édition. À présent, le rappel des titres. Élection présidentielle de 2025, le PDCI-RDA dévoile son dispositif électoral et met en place une task force dans le district des Lagunes. Le ministère de la Santé a présenté son plan de communication communautaire 2022-2025. Et en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa dévoile un gouvernement d'union nationale au format inédit. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À présent, retrouvez la revue de presse avec Mel Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui,